comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister et France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. On lance l'année avec un tournage un peu particulier. On avait connu en 2020 les tournages à distance avec à minima un invité, Olivier ou moi, entre Paris, Marseille, les États-Unis ou la Bretagne. On avait eu le plaisir de tous se retrouver réunis autour des micros de 40 nuances de Next pour le tournage avec Jacques-Antoine Grandjean. Et pour débuter cette année, c'est sans mon compère Olivier Mathieu que j'ouvre le bal du Next 40. Alors avant toute chose, je vous souhaite à tous une merveilleuse année, qu'elle vous ouvre le plus de portes possibles. 2021, c'est donc parti. Une année où, avec Olivier, on aura le plaisir de vous faire vivre les expériences des entrepreneurs du Next 40. 2020 a été pour certains une année difficile, pour tous une année particulière. Alors en 2021, qu'est-ce qu'on fait? On recommence? Non, on recommerce. Et ce n'est pas mon invité qui nous dira le contraire, n'est-ce pas Pierre-Étienne?
Oui, bonsoir, bonsoir Thomas, enchanté d'être ici.
Pierre-Étienne, tu es donc le CEO de Recommerce.
Oui, en fait, plus techniquement, je suis président de Recommerce depuis sa création et aussi un des 4 cofondateurs aux côtés de Benoît, Antoine et Cédric, à qui nous avons cofondé l'aventure il y a 4 ans.
On va passer presque 2 heures ensemble. Mm-hmm. Tu vas nous parler de Recommerce, sa stratégie, ses débuts aussi, et puis sûrement les écueils par lesquels vous êtes passés, ce que vous projetez déjà. Et puis on va parler de toi, si tu veux bien.
Avec plaisir, ouais.
Eh ben, on démarre. Pitch au mon pitch. Pitch au mon pitch. Alors, on parle de réemploi?
Ouais, complètement. Complètement. Ce qui n'était pas une évidence il y a 10 ans quand on a créé Recommerce, avec le souhait effectivement de créer une entreprise qui était une entreprise à mission, engagée. Clairement, c'était, je pense, la vocation hein, de Benoît, mon associé, en fait, de lutter contre le gaspillage. Et ça a été très rapidement en fait la mienne de créer une entreprise dont la mission est de lutter contre le gaspillage et préserver les ressources en fait de notre planète. Ça a été en fait la vraie intention en fait de créer Recommerce et de vouloir inventer un nouveau modèle de consommation, puisqu'on l'avait constaté, notre mode de consommation, et on le constate encore plus aujourd'hui, n'est pas forcément durable. Et donc on a essayé de s'attaquer à la problématique des smartphones pour encourager en fait à leur réemploi, puisqu'il y a 10 ans de ça, c'était seul 2% en fait des smartphones étaient quand même recyclés. Ça avait des conséquences économiques, sociales et environnementales très fortes, notamment en fait dans les pays en voie de développement.
2% à l'époque, pardon, aujourd'hui on en est à combien pour mesurer le chemin parcouru?
Alors aujourd'hui, c'est on va dire 15 à 20% en fait des actes de vente qui intègrent en fait la reprise de l'ancien produit. C'était il y a 10 ans. Et donc comme on le voit un petit peu dans l'automobile, où aujourd'hui en fait quand j'achète une nouvelle voiture, c'est à peu près le sens que je revende en fait l'ancienne voiture. C'est un acte qui est maintenant en fait vraiment systématisé. Aujourd'hui, on assiste à peu près au même phénomène dans la téléphonie mobile. Par exemple, sur les Apple, c'est à peu près un iPhone sur 2 aujourd'hui qui est financé par le téléphone précédent en fait du consommateur. Donc c'est une vraie tendance en fait de fond. Et aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère où ce qu'on a vu sur l'automobile, ce qu'on a vu sur le smartphone, on va le constater sur énormément d'autres catégories de produits, en parlant du bricolage, de la puériculture, enfin d'énormément de secteurs.
Alors, on va présenter Recommerce avec Olivier Mathieu, parce que même si je suis seul avec toi, il est toujours parmi nous. Et il nous proposait en quelques mots et quelques chiffres de nous présenter Recommerce. On l'écoute.
Bonjour Thomas. D'habitude, je commence toujours ce podcast en disant à quel point je suis ravi d'interviewer un nouvel entrepreneur du Next 40 à tes côtés.
Il est à l'aéroport.
Et cette fois-là, je ne suis ni en studio ni à distance avec vous, donc j'ai enregistré ce petit message. Tout d'abord, pour souhaiter une très bonne année à tous nos auditeurs du Next 40 et merci beaucoup pour votre fidélité. Une bonne année évidemment à toute l'équipe du podcast 40 nuances de Next et à nos partenaires. que tu ne manqueras pas de citer, ainsi qu'à notre invité, Pierre-Étienne, de Ricommerce. Alors, je me suis permis quand même, pour jouer le rôle que j'avais pris fin 2020, de présenter un petit peu la start-up, ou on pourrait dire la scale-up Ricommerce. Je rappelle donc qu'elle a été créée en 2009. Elle a collecté ou racheté entre 3 et 4 millions de téléphones depuis 11 ans. Des téléphones qui sont rachetés à la Côte de l'Argus d'occasion, puis ensuite reconditionnés dans plus de 24 pays, auprès de 7000 boutiques d'opérateurs de téléphones. Ricommerce compte une centaine de salariés et revendique un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros en 2019 avec une croissance de 30%. Ce sera peut-être intéressant que Pierre-Étienne nous dise quel est le chiffre d'affaires 2020, s'il peut le révéler. Ricommerce, ce n'est pas seulement le reconditionnement des téléphones, mais c'est aussi des ordinateurs, des consoles de jeux et des tablettes. Et les enjeux du point de vue du consommateur sont éco, dans les deux sens du mot éco, à la fois économique, parce qu'évidemment, en rachetant un téléphone reconditionné, on peut avoir des prix très très bas et très compétitifs, et puis en revendant son téléphone à la Côte de l'Argus, on se crée aussi du pouvoir d'achat. Et c'est également un enjeu éco au sens écologique, parce qu'évidemment, par le reconditionnement, on évite beaucoup de consommation de matières premières et on a un bilan carbone beaucoup plus favorable. Voilà ce que je pouvais dire sur e-commerce et je vous souhaite un très bon podcast 40 nuances de Next à tous les deux.
Alors moi, du coup, j'ai tout compris. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose, Pierre-Étienne ?
Non, c'est très clair. Et la principale difficulté à laquelle on s'est heurté en 2009, c'est qu'effectivement, à l'époque, les consommateurs n'avaient pas du tout de perception de la valeur de leur téléphone, puisqu'à l'époque, ça coûtait 1 euro chez son opérateur. Et donc, notre difficulté, c'est de savoir comment on peut aller chercher ces téléphones dans les poches des consommateurs. Il faut savoir, aujourd'hui, il y en a encore 113 millions à peu près en France, ce qui est quand même à peu près 4 à 5 en fait, par foyer en France. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné en fait, vers les opérateurs.
C'est-à-dire qu'il y en a presque deux par personne.
Ouais, quasiment. C'est là où on voit le gaspillage en fait de ressources quand on voit en fait tout ce qu'il y a, enfin tout ce que on en reparlera, hein, tout ce l'impact en fait qu'a eu l'extraction en fait de minerais pour aboutir en fait à la production de ce téléphone là. Et donc en fait notre question c'était quel a été le moyen le plus efficace pour aller en fait chercher ces téléphones là. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on accompagne en fait aujourd'hui les commerçants de téléphones pour leur permettre en fait de proposer la reprise de ces équipements à leurs clients, et c'est donc tout naturellement qu'on s'est tourné vers les opérateurs et qu'on a décidé de faire de Ricommerce en fait une société plutôt B2B en tant que telle, puisqu'on accompagne les partenaires et qu'aujourd'hui on est quasiment présent derrière tous les opérateurs français sans que le grand public en fait nous connaisse, alors qu'une bonne partie des gens en France nous a vendu son téléphone via les opérateurs. Et ça nous a permis de craquer le premier maillon en fait de notre métier, qui est d'acheter des produits avant de les reconditionner et de les revendre.
C'est intéressant ce que tu dis sur le positionnement et du coup le modèle hein, qu'on va pouvoir découvrir. On vous compare parfois, on vous imagine concurrent d'une boîte qui est également au Next 40, qui est back market, où peut-être il y a parfois plus de notoriété, on ne se rend pas forcément compte des volumes. Est-ce que, à tes yeux, ce sont des concurrents déjà ?
Non, enfin, back market techniquement n'est pas un concurrent. Aujourd'hui, c'est un distributeur, c'est finalement un partenaire aussi de Ricommerce, quand Ricommerce est plus un producteur en tant que tel. On achète, on transforme, on revend, ce qui n'est pas le cas en fait de back market. Et autre chose qui nous distingue, c'est que nous, notre volonté, c'est vraiment d'être un enabler de cette industrie-là. Et on croit beaucoup dans le fait qu'il faut aider les commerçants actuels. Alors, on parle beaucoup du smartphone, mais même sur d'autres catégories de produits, à devenir en fait ce qu'on appelle des recommerçants et être eux-mêmes en capacité d'acheter, de transformer et de revendre. Et donc là où back market, visiblement, a la volonté plus d'être une sorte d'Amazon en fait du reconditionné, notre vision est plutôt de permettre en fait à tout retailer, toute petite boutique aujourd'hui, de tirer profit et de se transformer pour elle aussi proposer cette expérience du reconditionné qui, comme l'expliquait Olivier, permet en fait un gain pour la planète, mais aussi clairement pour le consommateur et aussi pour le retailer, parce que ça lui permet de faire des ventes additionnelles, d'avoir une proposition de valeur en fait différenciante à son consommateur. Et donc c'est là où nous on a un positionnement différent.
Et alors du coup c'est intéressant parce que il y a sûrement aussi des freins, j'imagine, en tout cas j'en perçois qui vous est peut-être parfois mis en face, c'est cette idée que si je propose à mes consommateurs des produits reconditionnés, ils ne vont peut-être pas aller chercher des produits neufs, que je pourrais également leur vendre et sur lequel je fais peut-être plus de marge. Donc comment on convainc ces retailers de participer à ce réemploi?
Alors en fait, le premier obstacle en fait, des retailers quand ils voient le reconditionné ou même des marques, ils vont penser en fait, que c'est un marché qui va cannibaliser leur marché naturel. Et par exemple, il y a déjà en fait des marques qui sont assez relativement avancées. Par exemple, on peut parler en fait de par exemple Patagonia, qui est une marque.
Yvon Chouinard.
Voilà, et que tout le monde connaît et qui assez naturellement en fait s'est lancé sur le reconditionné. C'est une marque en fait où il y a peu de tendances, peu d'effets de mode, on va dire que la doudoune de cette année ressemble quand même assez grandement en fait à la doudoune de l'année dernière. Des produits qui restent quand même néanmoins assez haut de gamme. Et eux en fait ont lancé une offre de produits reconditionnés. Finalement en fait c'était 80% des clients étaient des primo-accédants à la marque. Et c'est là où on voit aujourd'hui que le reconditionné, c'est la même chose chez Apple. Il y a beaucoup de gens en fait qui rêvent d'un produit Apple, ils peuvent pas sortir les 1000 euros et quelques. Qui vont se tourner vers un modèle précédent et ça permet en fait à Apple finalement d'aller chercher de nouveaux clients, qu'ils rentrent dans l'écosystème iTunes et peut-être un jour qu'ils vont convertir en fait sur le neuf.
Donc ça ne cannibalise pas, au contraire.
Ça ne cannibalise pas et puis après il y a d'autres effets. C'est par exemple aujourd'hui en proposant en fait, quand une enseigne propose déjà de reprendre les anciens équipements, ils vont donner du pouvoir d'achat en fait à leurs clients, ils vont permettre de le transformer sur peut-être davantage de services, de le faire monter en gamme. Donc ça a un intérêt direct en termes de création de chiffre d'affaires et de marge de manière induite. Quand ils vont proposer en fait des produits reconditionnés, ils vont proposer un éventail de produits en fait différents à leurs partenaires sur lesquels en fait il y a à leurs clients sur lesquels en fait il y a une demande également très forte. Et donc aujourd'hui, il est maintenant mesuré et connu qu'effectivement, pour un retailer, proposer en fait, du reconditionné est extrêmement stratégique. Aujourd'hui, en fait, dans le retail, on peut comparer même la nécessité de transformation circulaire à la nécessité de transformation digitale pour ces enseignes-là, tellement en fait, ça répond à des attentes des consommateurs, qu'il y a des enjeux marketing associés et que ça va impacter leur business model profondément en permettant de créer du chiffre d'affaires additionnel, de la marge additionnelle, de l'EBITDA additionnel et surtout de répondre en fait, à une attente des consommateurs qui est de plus en plus marquée.
Tu l'as dit, on l'a compris, hein, on ne parle pas que de smartphones, même si j'imagine que c'est aussi ce qui a tiré le réemploi vers le haut. On a une question de notre compère Olivier Mathieu, on l'écoute.
Vous avez un message.
Alors même si je ne suis pas présent avec vous, comme vous l'aurez compris, j'avais très envie de poser une question business à l'homme de e-commerce, car on sait qu'il y a une grande partie du marché du reconditionné qui repose sur les téléphones, même si e-commerce occupe aussi du reconditionnement des ordinateurs et des consoles de jeux, je crois, comme je le disais en introduction. Et j'aimerais savoir, en fait, sur quelle catégorie de produits vous comptez aller, Pierre-Étienne, et quelles sont la taille des différents marchés, potentiellement, au-delà de l'extension géographique, mais par type de vertical, car évidemment, plus on aura, j'imagine, touché de marché, plus on aura un impact positif sur le bilan carbone, la consommation de matières premières et la durée de vie de nos produits électroniques. Merci de ta réponse.
Ouais, plusieurs choses. Effectivement, déjà, la vision de e-commerce en tant qu'entreprise finalement engagée, c'est non seulement effectivement de continuer à développer e-commerce sur un nombre de catégories de plus en plus large, mais c'est surtout pour nous le souhait d'avoir un impact, on va dire, systémique le plus fort possible en accompagnant en fait tout notre secteur d'activité en le tirant vers le haut. Parce qu'on a eu la chance en fait de commencer sur une catégorie qui avait 10 ans d'avance par rapport à plein d'autres catégories qui se lancent aujourd'hui et qui deviennent pertinentes en fait sur le reconditionné. On va dire le marché a commencé par la voiture, ensuite c'est le smartphone qui s'est développé il y a quasiment 10 ans de ça. Et aujourd'hui, en fait, il y a plein d'autres secteurs qui se lancent. Et je pense que vous avez tous en tête en fait, des initiatives sur l'économie circulaire dans tous les secteurs confondus. Le bricolage, récemment, il y a eu des annonces d'IKEA qui rachète ses meubles, de Levi's qui rachète ses jeans, etc.
Et il manque une
tout
vis.
Le monde veut faire du e-commerce.
Pardon, je faisais une blague. Je disais qu'il manquait une vis sur Ikea.
Bah oui, mais après c'est là où aussi en fait le reconditionneur a sa place. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on voit que le marché du C2C finalement en fait atteint une certaine asymptote, qui est une demande du consommateur quand j'achète en fait un produit un besoin de rassurance pour dire bah voilà, j'achète un meuble reconditionné, est-ce que j'aurai toutes les vis, parce que je sais que effectivement si j'achète le meuble Ikea et où il manque des vis, en fait il tiendra pas debout. Et donc la proposition de valeur du reconditionneur, c'est de m'assurer que déjà que la transaction se passera bien. mais qu'en achetant un professionnel, j'ai une garantie que le produit sera fiable, que si jamais, en fait, malheureusement, il manque encore une vis, ben, en fait, j'aurai un service client. Et donc, voilà, ça, c'est toute la proposition de valeur du reconditionneur.
Donc, ta réponse, Olivier, c'est qu'en fait, tout potentiellement ou presque peut être reconditionné, ce qui est malgré tout, il y a des secteurs qui sont particulièrement plus exposés.
Alors, aujourd'hui, en fait, déjà, en fait, quand on parle de l'occasion, au sens large, aujourd'hui, c'est un marché à peu près de 100 milliards en France, en termes de potentiel, et un marché qui va ne faire que se développer au fur et à mesure qu'effectivement, il va se professionnaliser. Parce que c'est un marché qui a un gros enjeu, en fait, de professionnalisation, qui est professionnel sur l'automobile et sur le mobile, pas encore sur d'autres verticaux, et donc, en fait, qui a l'aune, en fait, d'un développement certain. Aujourd'hui, c'est à peu près 100 000 emplois. En France, cette économie-là. On estime, suivant la manière dont le marché va se structurer, que dans 2 ans, ça peut être 300 000 à 700 000 emplois de plus, suivant en fait l'essor sur ces nouvelles catégories de produits. Et donc aujourd'hui, au-delà du smartphone et du consumer électronique, en fait, qu'on adresse, nous e-commerce, il y a des vraies tendances de fond. Par exemple, il y a énormément d'initiatives sur le vélo. Tout le monde comprendra que c'est pertinent de se lancer aujourd'hui sur du vélo électrique, sur des équipements sportifs de manière générale.
Ça, vous y allez pas?
Non, on n'y va pas.
Et vous voulez pas y aller?
Alors, en fait, on peut pas tout faire parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un métier qui est assez exigeant. Ça nécessite de développer une expertise commerciale et industrielle par catégorie de produits. Et donc, par contre, e-commerce, effectivement, on l'a pas évoqué, mais avant tout une entreprise fortement technologique. C'est-à-dire sous un angle très industriel, c'est une société très orientée data science qui a développé un ERP spécifique à cette économie circulaire, qui est très très loin dans la manière dont c'est approché d'une économie linéaire classique. Et donc, aujourd'hui, on est sollicité et on propose nos technologies à ces acteurs industriels qui veulent se lancer sur d'autres catégories. Et dans ce cas-là, on propose nos technologies sous forme de licence. On les accompagne d'un point de vue expertise et ça leur permet eux-mêmes de faire ce métier de j'achète, je transforme et je revends, tout en utilisant en fait les bonnes pratiques et l'IT et la plateforme technologique que e-commerce a développée depuis 10 ans. Et c'est comme ça en fait qu'aujourd'hui, on compte sur ce marché avoir en fait un impact maximisé, c'est-à-dire sur les catégories qu'on maîtrise en allant toujours plus loin parce que finalement, on est aujourd'hui encore qu'au début de l'histoire, et après sur d'autres verticaux, aider des gens en fait à le faire naturellement. Et aujourd'hui, on est en contact avec une grande partie en fait des marques ou des grands distributeurs qui cherchent justement à progresser en fait dans ces secteurs-là. Et puis après, il y a une autre catégorie, c'est aujourd'hui en fait tout ce qui est le marché du textile, qui a aussi des gros enjeux d'économie circulaire. Là-dessus, c'est une problématique de fond. Enfin, on est tous conscients en fait des dégâts environnementaux, notamment que font tout ce qui est la fast fashion, etc., avec des produits qui sont difficilement en plus recyclables. Ça, c'est les marchés que nous, aujourd'hui, en fait, on n'adresse pas forcément. Nous, on est plutôt aujourd'hui, on va dire, sur les équipements à forte valeur résiduelle, donc des choses qui sont plutôt haut de gamme, qui auront encore une valeur demain, qui sont réparables. Et nous-mêmes, en fait, on milite de manière générale pour que demain, les produits soient de plus en plus réparables, pour qu'il y ait de plus en plus d'éco-conception, etc., ce qui est encore trop rare dans le textile.
L'obsolescence programmée, c'est réellement programmé ou c'est un état de fait lié au fait qu'il faut permettre à nos consommateurs d'avoir des nouveaux produits achetés?
Je pense que l'économie circulaire est une réponse en fait à cette obsolescence programmée. Il faut travailler aujourd'hui en fait sur la durée d'usage en fait des produits. Typiquement aujourd'hui en fait nous on continue à vendre des iPhone 5, des iPhone 6,
donc ça marche encore.
C'était avant tout dans la tête des consommateurs en tant que tel que ces produits en fait étaient potentiellement déficients. Et donc là l'idée c'est plutôt de se dire bon, une fois que quelqu'un en fait veut changer d'iPhone, tout mettre en œuvre pour que son iPhone précédent ait une seconde vie, voire en fait une troisième vie, puisqu'il y a toujours en fait des gens qui sont intéressés pour ces choses-là. Et donc c'est changer de paradigme, beaucoup plus anticiper la fin de vie des produits et systématiser en fait le geste que à l'issue en fait de l'utilisation d'un bien, je le remets dans le circuit. Ça, c'était vraiment en fait l'économie linéaire telle qu'on la connaissait avant, c'est-à-dire j'extrais en fait des minerais, des ressources de la planète, je les utilise et puis après je balance le truc en ayant en fait des effets complètement défavorables en fait sur la planète, au-delà du fait qu'on a extrait quelque chose pour rien et que aujourd'hui on n'est pas dans un monde illimité en termes de ressources. Là aujourd'hui, c'est systématiser la réparation dans un premier lieu. J'ai un produit, je l'ai cassé, je le répare et il faut pousser à ce que les produits soient de plus en plus réparables. Deux, si en fait je ne le veux plus, je le revends et je favorise en fait des filières de réemploi. Et sinon, en fait, la réutilisation, c'est-à-dire réutiliser le bien éventuellement pour un usage tierce. Et si le produit est vraiment en fin de vie, potentiellement le recycler pour en récupérer la matière et en refaire de nouveau.
Pierre-Étienne, on peut supposer que les industriels et les producteurs n'ont pas forcément intérêt à penser une vie longue de leurs produits. Est-ce que du coup, c'est l'institution, le politique, qui a un rôle à jouer en la matière ?
Oui, ben, déjà en premier lieu, les citoyens. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on passe beaucoup de temps à évangéliser, à éduquer, à sensibiliser. Mais effectivement, le point que tu évoques est aussi important, c'est qu'on passe beaucoup de temps, et notamment, en fait, notre statut de Next 40 nous a beaucoup aidés là-dedans, de peser auprès des pouvoirs publics et porter, en fait, la voix, en fait, de cette industrie naissante et vertueuse, en fait, du réemploi, pour les sensibiliser déjà aux attentes des consommateurs et surtout... l'impact économique très positif que pourrait avoir en fait le réemploi. Tout à l'heure, en fait, on le disait, hein, ça peut être 300 à 700 000 créations en fait d'emplois en France. S'il y a des enjeux de formation, de réindustrialisation, donc c'est au centre en fait de beaucoup de problématiques dont on parle aujourd'hui.
Oui, parce que pour faire du réemploi, on renvoie pas en Chine des produits qu'on a achetés ici pour qu'ils nous reviennent, ou ça existe
aussi? Non, en fait,
aussi.
La logique, c'est de développer de plus en plus en fait des filières françaises et industrielles et locales de réparation, de reconditionnement en fait des produits. Mais après, c'est là où le pouvoir, en fait, le législateur a œuvré, puisqu'en fait, il faut aussi créer les conditions pour que cette réindustrialisation en fait se produise. Et donc aujourd'hui, il y a un cadre fiscal qui n'est pas suffisamment incitatif et on milite pour. Il y a un champ réglementaire qui n'est pas du tout adapté. Enfin, c'est un marché émergent, donc nous, on a toutes sortes de lois qui sont pas du tout, qui n'ont pas du tout été pensées en fait pour notre secteur. Il y a des taxes qui sont assez absurdes. Et surtout...
Exemple.
Aujourd'hui, par exemple, typiquement, aujourd'hui, il y a des. Vous savez qu'en fait, quand vous achetez un bien d'équipement électronique, vous allez payer ce qu'on appelle la D3E, la taxe sur les déchets électroniques, et qu'aujourd'hui, en fait, tous les acteurs du réemploi, en fait, n'en bénéficient pas, alors qu'il serait assez juste que ces acteurs qui contribuent, en fait, à la dépollution et la gestion de la fin de vie de ces déchets en bénéficient. Et donc, ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui en discussion et pour lesquelles on milite, qu'on puisse bénéficier, en fait, de cette éco-contribution.
Vous avez créé notamment la Fédération des acteurs du réemploi, tu le disais aussi, hein, avec le Next 40, vous avez eu l'oreille d'un certain nombre de politiques. Est-ce qu'il y a des premières victoires, des premiers trophées à votre actif ?
Oui, complètement. Bah, en fait, en notamment dans les années 2005-2006, on se sentait quand même assez seul. On était encore dans un marché qui n'était pas très éduqué, pas très réceptif à ces choses-là. Quand on crée même la boîte en 2009, on nous posait la question, mais est-ce que le marché de l'occasion existe réellement, etc. Et donc, on a senti la nécessité de fédérer notre industrie. Et donc, on a été à l'initiative et on a été cofondateur d'une fédération qui s'appelle R-Cube, qui est en fait la fédération des acteurs du réemploi. Et qui regroupe aujourd'hui toutes les initiatives, donc beaucoup de start-up, beaucoup d'associations, maintenant des grands groupes qui nous rejoignent pour porter les intérêts en fait de ce secteur-là, qui est extrêmement vertueux et aussi qui est assez particulier, puisqu'en fait il réunit que des gens en fait très motivés en fait par le sens et la mission en fait de leur entreprise, qui est très vertueuse. Et donc c'est un collectif qui est plutôt très fort et qui nous a permis en fait de défendre en fait des sujets à échelle nationale et faire bouger des lignes d'un point de vue réglementaire. Typiquement, récemment, on a été intégré, d'ailleurs c'est mon associé Benoît qui siège, est nommé par le Premier ministre au sein d'une commission interfilière qui régule, on va dire, en fait, le monde des déchets. Et donc ça nous permet d'être de plus en plus influents, de porter notre voix et de nous faire entendre sur tous les enjeux du secteur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est maintenant en train de porter à échelle européenne pour toujours peser plus et faire prendre conscience, notamment le pouvoir politique, des enjeux autour de cette économie circulaire.
Il y a plusieurs boîtes à impact, hein, au Next 40. Il y en a deux, du coup, on en a parlé, dont vous, qui touchaient ces sujets de réemploi. Est-ce que ces réussites sont des réussites qui cachent la réalité d'un certain nombre d'acteurs, ou est-ce que globalement, le marché, les entreprises qui naissent sur l'économie circulaire, on le vend en poupe, et tu, si oui, tu pourras peut-être expliquer pourquoi?
En fait, non. Je pense qu'en fait, c'est quand même un secteur qui est compliqué. On disait en fait un cadre réglementaire qui n'est pas optimal. Malheureusement aussi un phénomène qui fait que il y a des places de marché en fait qui sont arrivées en fait sur le secteur, hein, que ce soit Amazon ou d'autres, toute l'entité Black Market, qui ont énormément contribué en fait à la fragmentation du marché, avec en fait toutes sortes d'acteurs qui sont arrivés d'autres zones géographiques, qui vendaient des produits sans payer la TVA par exemple, en fraudant en fait sur les niveaux de qualité, en vendant des produits contrefaits, etc. Donc les places de marché ont réagi parce que c'est quand même un enjeu de service client et d'image fort pour elles, mais aujourd'hui on laisse de manière insuffisante. Et ce qui fait qu'en fait, il y a 5 ans, par exemple, dans la téléphonie, je pense qu'il y avait, peut-être plus d'acteurs du reconditionnement français. Et qu'en fait, l'arrivée de ces acteurs-là en fait, a contribué au fait que maintenant, il y a 500 acteurs en fait, français qui peuvent proposer des produits reconditionnés. Mais 500 acteurs qui proposent en France des produits reconditionnés, mais une bonne part, en fait, qui viennent d'Asie ou autre. Et ça, c'est une vraie problématique. Et donc, on milite aujourd'hui pour qu'il y ait un cadre qui permette en fait de finalement un petit peu protectionniste, qui permette de protéger en fait toutes ces nouvelles pousses pour faire émerger cette industrie. Et typiquement aujourd'hui, enfin une de nos frustrations, c'est qu'on aurait aimé créer beaucoup plus en fait d'emplois en France, et qu'en fait c'est assez limité parce qu'on fait face en fait à cette concurrence, et aujourd'hui on passe à côté d'une opportunité de réindustrialiser en fait la France de manière beaucoup plus massive. Alors que c'est une opportunité unique aujourd'hui de transformation et complètement dans l'air du temps avec tous les sujets en fait de relocalisation, de boucle locale. Donc non, c'est pas une industrie aujourd'hui. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup en fait d'entrepreneurs, mais c'est un secteur d'élus compliqué. Ouais.
T'évoquais les places de marché. On a une question de Anne Taffin qui est journaliste chez Madinès. On l'écoute.
Vous avez un message.
Bonjour, ma question est la suivante. Amazon a lancé un service de reprise de smartphones en juillet dernier, en partenariat avec vous. Comment s'est initiée cette collaboration et comment travaille-t-on avec un géant du web, à la fois très utilisé mais aussi très critiqué ?
C'est pas une question évidente. Donc effectivement, on a lancé en fait notre partenariat avec eux il y a quelques mois, avec la volonté toujours la nôtre, qui est d'accompagner en fait les grands retailers et les grands distributeurs sur ces problématiques là et donc on s'est dit nous aussi contribuerons à aider Amazon à être un acteur plus vertueux, en tout cas qui est décrié en fait sur bonne part de choses. Et aujourd'hui, comme Recommerce est une société en fait à dimensionnement européen, enfin aujourd'hui on distribue dans une quinzaine de pays, le gros de nos effectifs est encore en France, mais on a cette force de frappe, et donc Amazon nous a choisi pour adresser cette problématique en fait au niveau européen. Et donc la relation en fait se passe plutôt bien de ce point de vue-là, mais notre volonté est vraiment d'élargir nous notre cercle de partenaires. Et typiquement aujourd'hui, on a comme priorité de travailler avec toutes les enseignes les grosses enseignes en fait du retail français, parce qu'il y a de très belles choses à faire, que finalement Amazon est finalement plus innovant qu'eux aujourd'hui en fait sur ce segment-là. Et notre enjeu, c'est de les aider aussi à s'équiper en fait des bons processus et de la bonne vision pour prendre de l'avance par rapport à un Amazon, alors qu'aujourd'hui il y en a énormément d'autres qui sont tout aussi légitimes de prendre la parole et de proposer des offres efficientes et créatrices de valeur.
On se propose d'enchaîner avec une question de notre autre partenaire média, La Tribune, avec le directeur de sa rédaction, Philippe Mabille.
Vous avez un message.
Bonjour Pierre-Étienne, ma question est la suivante. L'arrivée de la 5G va faire exploser les changements de smartphones, probablement cette année et l'an prochain. Comment éviter que cela ne devienne une catastrophe écologique annoncée pour reconditionner les anciens portables? Merci.
Oui, vraie question en fait sur la 5G, sur son impact énergétique, hein. Au-delà en fait des équipements et même en fait des choix de priorité aujourd'hui d'investissement, hein. Il y a encore des zones blanches en fait en France, des zones qui sont non fibrées. Et effectivement, aujourd'hui, on est en train de router en fait tous ces investissements vers la 5G. Donc effectivement, c'est un lourd débat. Sur notre part, nous, sur les produits reconditionnés, effectivement, ça va avoir un impact positif, on va dire, sur notre activité, puisque très prochainement, on va faire face à en fait, un afflux en fait, de produits des anciennes générations, et puisqu'en fait, tout le monde va être incité en fait, à renouveler son parc. Donc la manière en fait, dont nous le gère, c'est qu'on est en train de se dimensionner pour revendre en fait, ces produits à la fois en France, sur les personnes qui n'auront pas forcément besoin de la 5G, sachant que les cas d'usage aujourd'hui sont encore assez limités, et aussi de les redistribuer en fait, sur des zones géographiques où en fait, la 5G n'est pas encore déployé.
Et donc, mais ils ne pourront pas regarder de porno dans l'ascenseur.
Ah non, ça, ce sera pas possible. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est la vraie question en fait, de l'utilité de la 5G en tant que telle. Et donc, en fait, on se prépare, quoi qu'il arrive, nous, effectivement, à un changement des équipements de manière massive. Mais je pense qu'on pourra très bien fonctionner encore pendant 5, sans 5G encore quelques années. Et après, tous les pays ne sont pas aussi en avance, on va dire, que la France sur ces choses-là. Et donc, à nous de travailler des débouchés, en fait, dans d'autres géographies. Et ce qui explique aujourd'hui que Recommerce est aussi fortement international, parce que de tout temps, à une époque, on avait beaucoup de BlackBerry, alors qu'en fait, en France, la demande était beaucoup plus faible. Il fallait trouver des pays dans lesquels la demande était plus forte. Et c'est en ça que Recommerce, aujourd'hui, est extrêmement diversifié sur ses canaux de vente, de par leur typologie et de par les zones de géographie, parce qu'on a toujours ces problématiques de se dire...
Une nouvelle technologie, quelque chose qui passe de mode, il faut s'adapter très vite.
Ouais, complètement. Et donc, parce qu'aujourd'hui, on a une proposition de valeur universelle. Hein. Vous ramenez, en fait, encore votre BlackBerry. Bon, on le valorise peut-être plus, mais en fait, il y a des chances en fait, qu'on le rachète. Et à nous, après, d'avoir l'expertise pour la remettre en marché au bon endroit, sachant qu'effectivement, chaque marché a son niveau de maturité, la demande des consommateurs, et qu'il y a beaucoup aujourd'hui de produits qui ne trouvent plus preneur en France, d'où la nécessité de trouver les bonnes zones géographiques, hein, qui sont souvent en fait en Europe, mais qui vont permettre en fait, de donner une seconde vie aux produits.
Je vois le temps qui file, on a des tonnes et des tonnes de questions. Je te propose celle-là.
Vous avez un message.
Bonjour Pierre-Étienne, c'est Florent. Tout d'abord, bravo de participer à cet exercice, car je sais combien tu apprécies les interviews médiatiques. J'aimerais savoir, si on revenait sur ces 12 dernières années qui t'ont amené à fonder et faire grandir e-commerce, qu'est-ce que tu changerais? Et ma deuxième question, comme je ne t'ai jamais vu boire une goutte d'alcool, quel objectif peut-on se fixer et à son atteinte, on se prendra une coupe de champagne? À bientôt.
Effectivement, tu buvais de l'eau pendant la question.
Effectivement, donc, déjà, merci à Florent pour sa question. Donc Florent, effectivement, qui est un de nos actionnaires actuels et qui représente effectivement le fonds Créadev, qui a investi en fait chez Recommerce il y a de ça 2 ans et qui est en fait le family office en fait de la famille Mullier, on va dire au sens large, et qui nous accompagne dans notre stratégie de développement en fait depuis 2 ans. Donc en fait, ce que je changerais en fait dans la stratégie de Recommerce, potentiellement beaucoup de choses en fait. Je pense qu'on aurait pu aller encore plus vite en tant que tel, tellement en fait il y avait d'opportunités dans ce secteur là
et on aurait pu facile
et on aurait pu peut-être accélérer en fait un peu plus sur, je pense, l'internationalisation et peut-être un petit peu plus tôt, sans doute de manière un petit peu plus vite, parce qu'en fait aujourd'hui on voit que c'est des marchés sur lesquels en fait il y a de fortes appétences, et que la manière dont on s'y est pris dans un premier temps a pas toujours été complètement la bonne. On n'a pas forcément choisi les bonnes zones géographiques, et je pense qu'on a perdu beaucoup de temps en fait dans notre go-to-market européen.
Sur quoi tu t'es planté, vous?
Quand en fait on a fait un développement européen en fait qui était assez opportuniste, c'est-à-dire dès qu'il y avait un opérateur qui souhaitait travailler avec nous, on arrivait, et on s'est lancé en fait sur des zones géographiques où la valeur moyenne des terminaux était extrêmement faible. On s'est lancé en fait en Espagne, la valeur moyenne des produits qu'on rachetait était de 15 euros, et donc en fait on n'arrivait pas à trouver de marché secondaire.
Pourtant c'est les mêmes produits qu'ici.
Alors c'est le même problème qu'ici, mais en fait la valeur moyenne en fait des produits vendus en Espagne est considérablement plus basse qu'en France, et donc nécessairement en fait le marché secondaire est aussi beaucoup beaucoup plus bas.
Donc vaut mieux les acheter en Espagne et les revendre en France.
Donc il vaut mieux alors. En fait, c'est surtout que, par exemple, en fait, en Espagne, quand c'est lancé, la part de marché d'Apple était de moins de 5%, parce que les gens, en fait, achetaient des Nokia, etc. Et donc, suivant, en fait, les pays européens, il faut vraiment anticiper qu'est-ce qui est vendu, en fait, dans le pays. Et là, il se trouve qu'en fait, les produits étaient très entrée de gamme, et quand un produit est très entrée de gamme, généralement, il a une valeur résiduelle plus faible, et donc, il a moins de chances, en fait, d'avoir une seconde ou une troisième vie.
L'objectif que tu te fixes pour aller trinquer au champagne avec Florent?
Je sais pas, chez la réponse qu'attend Florent,
Alors déjà, quelle est la réponse qui l'attend?
En fait, aujourd'hui, on est sur un marché où des sociétés qui peuvent atteindre le milliard, c'est possible. On est sur un marché, enfin rien dans la téléphonie au niveau européen qui fait 20 milliards à l'heure actuelle, qui fait 20% de croissance en fait chaque année. Et donc, en fait, il y a la place pour un acteur qui fait ce milliard-là. C'est difficile quand on a un acteur industriel comme les e-commerce, en tout cas qui porte le stock, de croître très rapidement parce que c'est un marché qui est compliqué. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a des actionnaires qui nous encouragent à aller plus vite, à avancer en fait sur la croissance organique, sur de la croissance externe, pour être éligible en fait à cette société qui fait un milliard. Et aussi un actionnaire qui a raison aujourd'hui, mais on est tous alignés sur cette stratégie, qui nous pousse aujourd'hui à beaucoup plus anticiper les évolutions en fait de notre secteur, puisqu'en fait l'économie circulaire est notamment beaucoup liée à l'économie de la souscription. Et donc comment en fait on anticipe en fait les évolutions de notre secteur pour continuer à être pionnier comme e-commerce en fait l'a toujours été. Et donc aujourd'hui effectivement l'enjeu pour nous ce serait assez rapidement en fait de franchir la barre des 200 millions, ce serait très bien. La barre des 100 millions en fait on va la franchir et on est déjà en fait sur un rythme. Typiquement en fait en décembre on a fait plus de 10 millions de chiffres sur le mois et on est dans une bonne dynamique à dépasser durablement les 100 millions, mais c'est atteindre en fait le plus rapidement les 200 millions en accélérant sur une acquisition d'ampleur à l'échelle européenne. Je pense que là-dessus, en fait, effectivement, on pourrait trinquer.
Il y a beaucoup d'acteurs potentiels ou quand tu dis ça, il n'y en a qu'un et tout le monde sait de qui on parle ?
Non, là-dessus, en fait, on est sur des marchés en fait, où il y a peu d'acteurs européens pour l'instant, et on va plutôt avoir en fait, des champions nationaux. Il y a peu de marchés sur lesquels on a assisté au développement en fait, d'acteurs européens comme les e-commerce. Et donc, nous, aujourd'hui, en fait, on discute avec des champions nationaux pour essayer de voir en fait, ce qu'on peut faire ensemble dans l'optique, effectivement, de faire e-commerce un acteur multilocal européen, c'est-à-dire très fort numéro un dans de nombreux pays européens, avant, effectivement, de devenir un producteur leader au niveau européen.
Tu en as déjà parlé tout à l'heure, Benoît Varin, donc un de tes associés, il a également une question pour toi.
Vous avez un message.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis Benoît Varin, associé de Pierre-Étienne et puis ami et camarade de promotion de Pierre-Étienne depuis maintenant plus de 17 ans. Et effectivement, dans cette magnifique émission podcast des 40 nuances de Next, je suis ravi de pouvoir enfin poser une question à Pierre-Étienne qui me tarde de lui poser après toutes ces aventures passées ensemble. Je voulais lui demander, Pierre-Étienne, avec tout ce qu'on a vécu, nos engagements, la volonté de changer le monde, avec notre vision qu'on avait de devoir faire la révolution du commerce, la révolution pour un mode de consommation plus responsable. C'était notre ambition, ça reste ma vision. Je voulais savoir, avec toutes ces aventures passées là, depuis 16 ans ensemble, et puis depuis même 11 ans maintenant avec Recommerce, avec des aventures financières, des aventures sociales, organisationnelles, managériales. Je voulais savoir pour toi, Pierre-Étienne, qu'est-ce que c'était d'être un entrepreneur militant et est-ce que tu te sentais encore maintenant avec toute cette responsabilité de gérer une société de plus de 70 millions, voire sur une tendance de plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une équipe de plus de 100 personnes en direct à gérer et plus de 300 sous-traitants à gérer. Avec toute cette responsabilité, Pierre-Étienne, pour toi, c'est quoi un entrepreneur militant? Merci. À vous tous et à vous toutes.
Merci Benoît pour la question. Je pense que Benoît n'avait pas osé me poser la question depuis la semaine dernière à peu près et que je l'entends depuis chaque semaine. Grosso modo, en fait, effectivement, Benoît, c'était une véritable vocation. C'est quelqu'un en fait, qui est assez révolté en tant que tel, qui fait complètement corps avec la mission en fait, de l'entreprise, effectivement, et qui va en permanence chercher à nous pousser dans nos retranchements. Enfin,
c'est la révolution.
C'est la révolution du commerce. C'est comment en fait, on change les choses, comment en fait, on casse ce modèle d'économie linéaire, comment on disrupte ce marché, ce système auquel on ne croit pas, qui n'est pas durable. Et effectivement, ce qui a été le lien fédérateur entre les quatre fondateurs, c'était vraiment en fait ce point-là. Et d'ailleurs, qu'on partage aujourd'hui avec tous les collaborateurs en fait, de l'entreprise, c'est la mission de l'entreprise de changer les choses, de ne pas s'en satisfaire. Et malheureusement, en fait, au fur et à mesure que plus on progresse, plus on a l'impression finalement que la problématique devient aussi importante, qu'on est toujours au début et on est finalement toujours un satisfait finalement en fait de notre impact qui pourrait être, pourrait être encore plus grand. On est assez révolté de finalement de la prise de conscience en fait des consommateurs, des pouvoirs publics qui est encore trop faible par rapport en fait à la problématique environnementale majeure en fait auquel on fait face. Et donc il y a en permanence ce souhait effectivement de garder ce côté révolté, mais ça Benoît en fait nous le rappelle toutes les semaines et de continuer effectivement à faire bouger les lignes comme on le fait. Après effectivement Recommerce est une structure de plus en plus grosse, on a des responsabilités de plus en plus fortes, on est aujourd'hui en fait on doit s'inscrire en fait dans un rationnel financier fort, on est dans un marché qui est compliqué par ailleurs effectivement, donc c'est trouver effectivement le bon trade-off entre les deux, et aujourd'hui on peut pas parfois aller au bout de nos idéaux, typiquement par exemple sur le fait par exemple de localiser l'ensemble de nos activités industrielles de A à Z en France. Aujourd'hui déjà sur certains trucs il n'y a pas le savoir-faire et donc des fois on va faire appel en fait à des prestations dans d'autres pays où le savoir-faire en fait existe aujourd'hui parce qu'il n'a pas eu la possibilité de se développer en France, alors qu'on est convaincu qu'on pourrait relocaliser l'économie autour de ça. Et c'est pour ça qu'en fait on milite à tout niveau et au niveau des fédérations, au niveau du gouvernement, etc. pour porter cette voix, éduquer, éveiller les consciences et pour qu'on continue à aller en fait vers cette économie plus vertueuse et qu'on en tire en fait tous les bénéfices possibles, à la fois d'un point de vue sociétal, d'un point de vue économique, mais surtout d'un point de vue environnemental.
Une révolution, ça se finance.
Oui, en partie, mais aussi en fait, au-delà en fait de l'aspect économique, je pense que ça s'éduque. Et aujourd'hui, il y a un gros enjeu en fait d'éducation, d'expliquer à tout notre écosystème quels sont en fait les enjeux. Voilà. Et aujourd'hui, on assiste à cette prise de conscience. L'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est aussi pour nous en fait de nous placer au centre de cet écosystème-là, d'aider les entrepreneurs, de les aiguiller, notamment enfin tous ces entrepreneurs-là à impact pour faire naître en France un vrai écosystème d'entrepreneurs militants et trouver des gens en fait qui prennent aussi notre relais ou notre roue quand on peut le faire.
Il y a deux choses sur lesquelles je vais rebondir par rapport aux propos de Benoît. C'est un, la question de la posture avec la croissance de l'entrepreneur. Est-ce qu'elle change? Est-ce qu'on est un peu moins militant? Ou est-ce qu'on est un peu plus focus sur des sujets qu'on n'avait peut-être pas envie de gérer, mais il faut bien les gérer parce qu'on veut aussi faire grandir cette boîte?
Je pense qu'en fait, nos postures, Benoît et moi, n'ont pas trop évolué en fait dans le temps parce que Benoît, en fait, c'est l'éternel révolutionnaire et puis moi, effectivement, je suis beaucoup plus dans la rationalisation, dans la structuration. Et donc, en fait, l'entreprise a toujours trouvé un certain juste milieu entre nos deux profils. Et faisant que Benoît n'avait pas forcément besoin de s'agir. De mon côté, effectivement, j'ai jamais revendiqué de toute façon un caractère révolutionnaire en tant que tel, même si je suis convaincu en fait de notre démarche là. Et ce qui fait que notre binôme, voire notre quatuor avec les fondateurs, voire avec le management dont on s'est entouré, a toujours permis en fait de trouver en fait ce juste équilibre et aux personnes qui portaient en fait ces convictions de continuer en fait à les porter et à nous en fait derrière de structurer les choses pour qu'elles puissent encore porter cette voie-là. Voilà.
Est-ce qu'autrement dit, si tout le monde est révolutionnaire dans les fondateurs, on n'arrive pas à s'organiser et à l'inverse, si on ne fait que structurer, on n'a peut-être pas le message qui fait qu'on embarque tout le monde.
Ah oui, je suis convaincu. Je suis convaincu que sans le reste de mes associés, en fait, je n'aurais pas allé beaucoup plus loin. Et l'inverse, en fait, est également vrai. Et c'est pour ça que, dans la création en fait d'une entreprise, et c'est vrai dans notre cas, la manière dont on a construit en fait notre quatuor en termes de personnalité, en termes d'aspiration, a permis en fait d'aller relativement loin parce que chacun en fait avait son rôle et avait une manière différente et à lui d'exprimer en fait ses engagements.
On va sur des questions presque plus personnelles, mais typiquement dans une vie, et cela ça fait 12 ans vous en parliez, les envies peuvent changer. Est-ce que on se réorganise entre associés dans ses fonctions, dans sa manière de s'organiser?
Bah, en fait, ça a été un petit peu le cas en fait côté Recommerce en fait sur certains des fondateurs. Grosso modo, en fait, au début de l'entreprise où on faisait déjà absolument tout, on a décidé en fait de réorganiser. Typiquement, aujourd'hui, Benoît progressivement a quitté ses fonctions opérationnelles au sein de l'entreprise pour se concentrer uniquement en fait sur les sujets en fait affaires publiques, communication, etc. pour vraiment être le porte-voix en fait de l'entreprise. Cette facette-là extrêmement engagée en fait de l'entreprise et lui pouvoir pleinement s'exprimer en fait sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Ensuite, de mon côté, effectivement, je suis resté en fait sur des fonctions plutôt de structuration, de développement et de mettre en œuvre en fait cette vision là en essayant d'aller toujours crescendo en fait dans l'impact qu'on avait. Et puis on a un autre cofondateur en fait, Cédric, qui lui était en charge en fait de toute la partie IT, qui aujourd'hui en fait même est passé en fait sur un temps partiel pour lui-même continuer à avoir en fait de l'impact peut-être très concret sur les choses, puisqu'effectivement c'est un peu le paradoxe de ce qu'on a connu. Au début en fait on achetait et on vendait des téléphones nous-mêmes, hein, c'était ça le début, on voyait très clairement l'impact qu'on avait. Aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus abstrait et certains d'entre nous ont eu le besoin effectivement de continuer à le matérialiser en prenant du temps sur leur temps perso ou professionnel pour concrétiser en fait leur impact sur l'environnement et sur la planète.
On n'est pas encore dans la partie perso de ton podcast, mais du coup je la pose quand même. 12 ans que vous êtes amis, est-ce que les rapports d'amitié changent quand on est associé ?
En fait, donc Benoît a dit que j'étais son ami. Je ne nous ai jamais vraiment défini comme tel en tant que tel, parce qu'à l'époque, en fait, on s'était rencontrés, on avait construit un peu l'équipe en fonction des compétences. Voilà, et chacun en fait avait ses compétences. On a construit une équipe de manière vraiment très rationnel. Ouais. On s'est dit, voilà, il nous faut un profil comme ça, il nous faut un profil comme ça, il nous faut un profil comme ça. Donc Benoît, c'était plutôt la dimension industrielle, moi c'était financière, et il y avait quelqu'un de l'IT, il y avait quelqu'un plutôt côté pricing. Et donc on s'est dit, c'est quoi les quatre piliers qu'il faut, et on a construit en fait l'équipe ad hoc là-dessus, sachant que les quatre avaient juste en commun le fait d'avoir un impact. Et c'était des entrepreneurs ou des personnes qui cherchaient en fait à avoir du sens. Ça, c'est vraiment ce qui nous fédérait, ce qui nous a toujours fédérés. Et ce rôle en fait d'associés, en fait, aujourd'hui, c'est un statut à part. Enfin, mes associés, ça restera mes associés. Dans tous les coups durs qu'on a connus, on est resté extrêmement, extrêmement proches. Et donc, c'est une dimension, en fait, c'est au-delà de l'amitié. Enfin, c'est différent de l'amitié, mais aujourd'hui, cette relation d'association, en fait, elle est extrêmement forte. Et en fait, en 12 ans, on est resté extrêmement solidaires, quels que soient, en fait, les challenges, extrêmement proches. On échange tous au quotidien, etc. On se dit les choses. Et donc, on a développé, en fait, une qualité de relation qui est différente des relations d'amitié que je peux avoir, en fait, par ailleurs, avec d'autres personnes. C'est vraiment un statut à part, en fait, la relation que j'ai aujourd'hui avec Antoine, Cédric et Benoît. Et c'est des relations qui sont extrêmement fortes, qui sont extrêmement durables, et des fois même qui échappent un petit peu à la compréhension en fait d'autres qui disent mais vous êtes tellement différents, comment vous entendez, etc. Ben non, en fait c'est parce qu'on est différents justement qu'on a réussi à faire quelque chose qui est pas mal aujourd'hui. Et voilà, et chacun sait se trouver, chacun apporte quelque chose, et aujourd'hui c'est une association en fait complètement réussie.
Super intéressant. On a deux rubriques dans cette première partie à balayer ensemble. Je te propose d'aller relativement vite sur celle-ci.
Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme.
Il est venu tourner le jingle dans les studios.
Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
Donc bon, on est peut-être parti pour un troisième confinement, qui sait. En tout cas, la question que supposait cette rubrique, c'était comment vous êtes organisé chez Recommerce pendant cette première période qu'on a vécue, tous confinés, tous bloqués. J'avais décidé de la mettre de côté, et puis finalement, tu me disais quand on préparait cette émission qu'il y a eu quand même beaucoup de changements chez Recommerce pendant cette période-là. Est-ce qu'on peut en dire un mot ?
Alors oui, pendant que le président tenait ces mots-là, enfin nous on gardait pas tellement notre calme, enfin de notre côté, même si on avait un peu anticipé les choses, puisqu'en fait notre modèle en fait vise à acheter des produits dans les points de vente physiques. Aujourd'hui on rachète principalement nos produits en fait dans les boutiques opérateurs, et on vend principalement en fait aux retailers. Donc en fait quand on nous a dit les boutiques sont fermées, ça veut dire on n'achète plus, ça veut dire on vend plus, donc on a une problématique, on a un problème. Et donc là en fait on a réuni les équipes, on a dit on a un problème. Et franchement, en fait, donc on était quoi, début mars, et on leur a dit fin juin, il y a un énorme mur. Si on change rien, on va se le prendre, et ça va être très très compliqué pour l'entreprise. Et donc on a été complètement transparent sur le niveau de trésor en fait dans l'entreprise, notre niveau de cash burn, ce qui allait potentiellement se produire. On a dit voilà, ça c'est le worst case scénario. Travaillons ensemble très rapidement en fait sur un plan d'action qu'on avait un petit peu anticipé quand même, pour complètement en fait retourner l'entreprise et trouver en fait une dynamique. Voilà, donc bien sûr on a sécurisé un PGE, on a fait appel un peu au chômage partiel au tout début parce que la situation était vraiment critique. numérique. Et en fait, l'entreprise s'est très rapidement transformée parce qu'en fait, on a toujours été une société plutôt résiliente parce qu'on a énormément de canaux de vente. En fait, on vend online, on vend en physique, on vend en direct, en marque blanche, en marque propre. Et donc là, on a complètement redistribué notre chiffre d'affaires. On a beaucoup plus shifté en fait sur le digital, ce qui nous a permis en fait d'assurer déjà en fait une stabilité en fait de notre chiffre d'affaires. Donc ce qui a été plutôt bien.
Quand tu dis en digital, c'est sur recommerce.com ou c'est sur les sites internet des entreprises avec lesquelles vous bossez?
Alors en fait, il y avait sur notre site recommerce.com, il y a sur les places de marché en fait, dont Back Market. Effectivement, il y a un autre phénomène qui est celui que tu évoques, c'est qu'en fait, là où on pensait que le retail allait s'arrêter, toutes les enseignes retail en fait ont continué à nous acheter en fait des produits reconditionnés de manière significative parce que c'était des catégories qui, au niveau du web notamment, continuaient à très 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 bien se vendre. Et donc c'est là où il y a eu un double effet. D'abord, enfin, nous qui nous sommes reconfigurés, et puis en fait le confinement et la crise actuelle en fait ont été un vrai accélérateur en fait pour ce marché là puisqu'en fait les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à l'aspect écologique et cherchaient aussi des bons plans en fait pour s'équiper, notamment en fait dans un contexte en fait de télétravail. Et donc il y a eu en fait un vrai développement de nos secteurs que tout le monde en fait a perçu. Et c'est comme ça que Recommerce effectivement a connu un premier quarter difficile. Le deuxième, on repassait sur notre historique. Et le troisième quarter, on a fait 60% de croissance par rapport en fait à l'année par rapport à l'année dernière. Voilà. Donc ça a été en fait un retournement en fait compliqué, qu'on avait quand même un petit peu anticipé, mais ça a été une année qui n'était pas du tout de tout repos, et on a la chance de faire partie des entreprises qui s'en sortent bien et structurellement bien, puisque notre secteur économique a pris de l'avance.
Et typiquement, si on parle d'un avant-après Covid pour e-commerce, tous les efforts que vous avez mis sur le digital ne vont pas s'arrêter a priori?
Non, les efforts en fait qu'on a fait sur le digital ne vont pas s'arrêter. Puis ça a été un vrai facteur d'accélération de prise de conscience chez nos clients qui se sont dit, mais en fait c'est une catégorie qui est extrêmement pertinente. Il y a une vraie demande en fait de nos consommateurs, etc. Et donc le marché en fait, la maturité du marché a accéléré subitement. Et donc en fait ça fait que durablement nos canaux digitaux effectivement se sont développés. Et puis nos clients retail, hein, donc la grande distribution, les opérateurs, etc. Parce qu'aujourd'hui on travaille avec tous les opérateurs et la grande partie des distributeurs français. Effectivement vont continuer à accélérer, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nous. Voilà, et donc on est in fine en fait plutôt satisfait, plutôt soulagé à l'issue de cette année qui a quand même été extrêmement difficile.
Bon, ça y est, on est en 2021, on peut regarder un peu plus loin, on regarde l'avenir. I have a dream. On va parler du monde d'après qu'on nous a vendu. Moi, je serais curieux de savoir quel est le monde d'après dans tes yeux. Est-ce que c'est le même qu'avant en mieux? Est-ce que c'est le même qu'avant en pire? Qu'est-ce qu'on y met dans ce monde d'après?
Ah bah, le monde d'après, si en fait on fait rien aujourd'hui, ça va être très compliqué. ça va être très très compliqué. Et aujourd'hui, effectivement, le contexte de crise nous permet aussi en fait de prendre conscience de pas mal de choses, des impacts sur la planète. On le vit au quotidien. Bah, typiquement, on regarde en Espagne en ce moment où ils ont des records en fait de neige, etc. Donc il y a un dérèglement climatique en fait qui est de plus en plus problématique et concret en fait pour les gens, et il est l'heure d'agir. Et donc aujourd'hui, notre enjeu, nous côté e-commerce, c'est de faire notre part dans contribuer en fait à lutter en fait contre ce réchauffement climatique, et on espère en fait que ces crises là vont accélérer en fait la prise de conscience à la fois des citoyens et des pouvoirs publics pour accélérer beaucoup plus vite. Donc le monde d'après, stricto sensu, sur le reconditionné, c'est que vous irez dans un point de vente demain, vous réfléchirez à l'acheter en neuf, mais vous le prendrez sans doute de manière reconditionnée, puis vous paierez sans doute pour son usage, c'est-à-dire les notions de propriété vont fortement évoluer, et que effectivement, quand on concevra un bien, on essaiera d'être beaucoup plus frugal en termes d'extraction en fait de minerais, en termes d'impact carbone, et puis il y aura beaucoup plus d'éco-conception. Ça, c'est vraiment en fait des enjeux à venir. Et tout l'enjeu, par contre, c'est d'accélérer en fait cette transformation-là, parce qu'on a peu d'années en fait devant nous avant en fait que les conséquences en fait sur la planète soient plus qu'irrémédiables. Voilà. Et donc, fondamentalement aujourd'hui en fait, et on partage partage, on est nombreux à le partager, une vraie inquiétude en fait sur long terme de notre capacité collective en fait à nous transformer pour aborder ces challenges-là. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est plutôt positif parce qu'il y a plein de problèmes, les entrepreneurs sont là pour les résoudre et on en fait partie et on va tout faire en fait pour faire notre part au maximum, notamment en fait sur la consommation responsable.
Tu évoquais les changements climatiques et du coup avec l'espérance qu'en les mesurant chacun à notre échelle, on va peut-être modifier nos comportements. Est-ce que tu y crois vraiment ? Est-ce que, en fait, ma question, c'est est-ce que tu as confiance en l'être humain pour réellement changer ?
Oui, j'ai confiance en fait dans l'être humain pour trouver des solutions à ces problématiques-là. Mais le défi qu'on a en fait en termes de changement de nos habitudes, de consommation, de production est quand même énormissime. Et en fait, on le voit même dans la crise du Covid qui a été en fait un choc énorme. Finalement, il n'y a pas de grand changement en fait structurel. Alors en fait, qu'on a des grands enjeux en fait de modification de tout notre modèle économique qui ne tient pas. On vit dans un monde où tout le monde a la perception, enfin c'est de moins en moins vrai, mais que les ressources sont illimitées, que l'énergie est illimitée. Ça, c'est quelque chose qu'on a hérité de la première révolution industrielle. À partir du moment où on a construit des machines, on a eu cette perception-là, en fait, de l'illimité. Et c'est pas vrai. On le voit. Alors, on le voit aujourd'hui, nous, dans notre secteur, par exemple, avec les terras, qui constituent, en fait, nos téléphones. On voit qu'aujourd'hui, c'est des composants, en fait, c'est l'or, le beryllium, le tungstène, qui composent, en fait, tous les produits électroniques.
J'ai l'impression de jouer à la richesse du monde.
c'est un peu ça. Mais qui est une vraie rareté, et aujourd'hui, qui pose des problématiques géopolitiques, parce qu'en fait, comment on accède à ces denrées-là. Et demain, ce sera de plus en plus vrai, en fait, avec de plus en plus de ressources naturelles, et puis en plus avec un effet en fait, de la problématique de réchauffement climatique global. Et donc aujourd'hui, nous, on est quand même extrêmement inquiet par rapport à la situation, et c'est pour ça qu'on ne s'arrêtera jamais de militer pour trouver en fait, des solutions alternatives, et qu'on compte plus que jamais sur les entrepreneurs pour changer la donne.
On est capable de mesurer, je prends un téléphone reconditionné plutôt que d'en acheter un neuf, mesurer cet impact que j'ai sur le climat, le dérèglement climatique, où c'est presque trop encore anecdotique, même si ça participe au changement.
Non, en fait, nous, on le mesure complètement et on fait un bilan carbone de notre activité, nous, pour mesurer en fait l'impact qu'on a en fait sur la planète. Je crois que
Recommerce à grande échelle avec toutes les transactions, j'imagine.
Ouais, mais à l'échelle d'un téléphone.
En tant qu'individu, ouais.
Mais en fait, quand tu achètes un...
Et je te laisserai quand même nous dire le poids de votre action.
Recommerce. Non, en fait, aujourd'hui, en fait, construire acheter un téléphone reconditionné, ça permet d'éviter d'extraire 40 kilos de matière. En tant que tel. Donc tu vois, pour construire un truc qui grosso modo fait 100 grammes, c'est quand même 40 kilos de matière et des fois en fait...
Sans parler de l'énergie, de l'eau, de...
Complètement. Et puis là, c'est extraire de l'or, du lithium, de l'argent, du mercure. Je ne sais pas si tu as déjà vu des reportages sur dans quelles conditions en fait, c'est extrait, même d'un point de vue en fait, humain. En fait, les conséquences sont importantes. Et après, l'impact aussi, c'est 30 kilos en fait, d'émissions de CO2. Pour construire en fait ce téléphone-là. Et donc en fait, on part du principe que dès qu'en fait on réutilise un téléphone, en fait ton impact c'est 40 kilos d'extraction de matière en moins et c'est 30 kilos en fait de CO2 en moins. Et quand tu mets ça en fait à l'échelle, tout à l'heure j'évoquais le nombre en fait de téléphones qui sont dans les tiroirs en France, hein, donc c'est quasiment en fait 120 millions. Et si en fait on avait réutilisé ces produits-là, c'est plus de 120 000 tonnes en fait de matières premières déjà en fait qu'on économiserait et c'est plus de 100 000 tonnes en fait d'équivalent CO2. Voilà. Donc en fait c'est là où il faut arrêter en fait ce gaspillage là et il faut y avoir en fait une économie qui optimise en fait la ressource une fois qu'on l'a extraite, ce qui est absolument pas le cas aujourd'hui.
Bon, on l'a bien compris, hein, il est plus qu'urgent de changer nos habitudes. Il y a quand même une habitude qui ne changera pas. 40 nuances de Next, c'est en deux parties. On se retrouve dans quelques instants avec Pierre-Étienne Roana, président de Recommerce, pour parler de lui, pour parler de toi.
À tout de suite.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.